Dans la ruée vers l'or, ce sont les marchands de pelles qui s'enrichissent le plus. Un anonyme.
Et comment on sait avec Adjani alors?
J'ai trouvé dans sa destination Gigi.
C'est pas ce que j'ai fait moi pour mériter tout ça.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Bonjour à toutes et tous, il est 12h05, on y est, on va raccrocher le train. Il y a Eve Yann, il y a Marie-Agnès Bopin dans ce studio, Laurence Bibot.
Bonjour.
On va entendre des voix avec vous Laurence.
Oui, la voix des François, mais peut-être pas ceux que vous croyez. Ah.
Tous des gens qui s'appellent François.
Oui.
Le pape François, Frédéric François,
François
Feldman.
Oui.
François Mitterrand.
Vous en avez un bon, je ne vous dis pas plus.
D'accord, et bien de toute façon, c'est dans quelques instants. Éric Russon avec vous, on joue aux inconnus connus.
Ah, et je vous ai trouvé le maître étalon de l'inconnu connu.
Non.
Le type est complètement inconnu, mais tout le monde le connaît.
Ah, génial, c'est tout de suite. Manu Larsenet, notre invité exceptionnel d'entrée sans frapper. Il vient d'adapter La Route, le roman cultissime de Cormac McCarthy, un père et son fils dans un monde post-apocalyptique. Et vraiment, le dessin de Manu Larsenet et sa manière de raconter les histoires, bah, pour moi, n'a jamais été aussi percutante. Alors qu'il vient déjà de haut, hein, c'est l'homme du combat ordinaire, de retour à la Terre, de Blast, etc., etc. Manu Larsenet, invité exceptionnel d'entrée sans frapper aujourd'hui.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Éric Russon, les inconnus connus, vous nous avez promis du lourd.
Ah ouais, du lourd. Notre inconnu connu d'aujourd'hui entre dans deux catégories très particulières. Je sais pas vous, mais je suis souvent sollicité sur le net pour participer à des quiz cinéma. Le principe est assez simple, ils montent des photos. Reconnaissez-vous tel vieil acteur ou telle actrice qui a eu son heure de gloire il y a longtemps? Ou à quel film vous fait penser cette photo? C'est dans ce genre d'exercice que l'on se rend compte que parfois une seule image, emblématique hein, bien sûr, suffit pour identifier un film. Une seule image que les publicitaires ne se gênent pas d'ailleurs pour utiliser dans le plus de formes possible, des posters, des mugs, des t-shirts. Exemple connu, et j'en avais déjà parlé, Marilyn Monroe, sa robe qui se soulève au passage du métro, iconique. Notre inconnu connu apparaît dans une telle image. Ce n'est évidemment pas lui hein, qu'on regarde, c'est l'autre comédien. Parce qu'ils sont deux sur la photo. Mais dès qu'on la voit, on se souvient du film et de la scène. Il s'appelle Salvatore Corsito. Il est né à Canicati, en Italie, en janvier 1913. Il est mort le 6 avril 1999, à un bel âge. Voici le premier indice.
Ok, Amandum, James Brown.
Voilà, c'est un premier indice précieux, mais attention, ne focalisez pas sur le titre. C'est un indice précieux pour ceux qui connaissent l'histoire de la musique soul. Je vous disais que Salvatore entre dans une seconde catégorie d'inconnus connus. La même à laquelle appartient Estelle Reiner. Je sais pas si vous avez la petite dame qui veut commander le même plat que Meg Ryan dans la scène du Diner.
Harry,
exactement. C'est la même aussi que Joey Brown, le formidable comédien, qui lance la réplique la plus drôle du cinéma américain, Nobody's Perfect, à la fin de Some Like It Hot de Billy Wilder. Mmh. Mais en ce qui concerne Salvatore, ça va plus loin. Ce n'est pas une réplique culte, c'est l'équivalent de l'incipit ou l'incipit en littérature. L'incipit, c'est la première phrase du roman.
Il dit la première phrase du film.
Il dit la première phrase, c'est vraiment « Longtemps, je me suis couché de bonne heure du côté de chez Swan » ou « Ah là, petit concours, si je vous dis ceci, aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. »
Ah ben ça c'est...
Marcel Camus.
Ouais.
Mais il y en a comme ça aussi au cinéma, évidemment. Si je vous dis « choose life »,« choose a job », »,« choose a career ».
Trainspotting.
Hey, si je vous dis « le 3 septembre 1973, à 18h28min32s, une mouche bleue de la famille des Californidés, capable de produire... »
Amélie Poulain ?
Oui ! Bien. Oh, c'est très fort, vous êtes très fort.
En général, c'est un nouveau jeu.
Ah, c'est chouette. Ben, ça pourrait être un nouveau jeu. En général, c'est la voix d'un des comédiens principaux, ou celle d'un narrateur célèbre, en l'occurrence André Dussolier, que l'on entend. Dans le cas qui nous occupe, c'est un parfait inconnu, notre inconnu connu, qui prononce la première phrase culte d'un film qui ne l'est pas moins. Je vais vous la passer, cette phrase, mais pas tout de suite. Deuxième indice.
I need to know something right now. That's the question for Grace. You see, when I work with a horse, It's no good just me doing it. The owner's got to be involved too.
Well, that'll be a little complicated.
Alors, ça c'est pas un incipit, mais c'est une scène d'un film célèbre avec Robert Redford, Christine Scott Thomas et la toute jeune Scarlett Johansson. C'est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux en 98.
Excellent. C'est ça à voir.
Excellent indice. Quand vous saurez ce que c'est.
Attendez. On cherche un film italien ou américain?
On cherche un film américain.
On cherche un film américain.
Oui.
Réalisé en quelle année?
Ah ben ça, je vous dis pas encore.
Mais Eric, réalisé en quelle année?
Le monsieur, il est né en 33, donc ça doit être...
Non, il est né en 13.
C'est ça qui m'inquiète.
Bon, alors c'est un excellent indice. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Vraiment très bon.
Western.
Comment se fait-il qu'un acteur complètement inconnu lance non seulement la première réplique d'un film culte, non seulement il lance la première réplique, mais tout le monologue qui suit directement le générique du début? C'est son visage qui apparaît en gros plan sur l'écran. Suit alors un long zoom arrière, où l'on ne voit que lui, où ne l'entend que lui, Salvatore, notre inconnu connu. Il raconte le drame qui lui est arrivé durant 2 minutes et 18 secondes, j'ai calculé. Dans un plan séquence de surcroît, il ne peut pas se tromper, sinon bah, il faut tout recommencer, 2 minutes et 18 secondes.
Et avant, il raconte un drame qui lui est arrivé.
Il raconte un drame avant que l'autre comédien, qui est hors champ, ne lui réponde. Et pourtant, son nom est tombé dans l'oubli. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a fait qu'un seul film.
Que ça,
troisième indice.
Coolio, Gangsta Paradise.
Ouais, extrait de la bande originale d'un autre film,
oui,
Dangerous
avec Michel Pfeiffer.
Voilà. Sur Internet, on ne trouve quasiment rien à propos de Salvatore. 10 lignes grand maximum, mais toujours les mêmes. Cet homme est né à Rome, juste avant la Première Guerre mondiale. Il a étudié le théâtre à l'Académie nationale de l'art dramatique de Rome. Il est devenu acteur de théâtre dans son pays, mais sans faire de vagues, sans devenir une vedette. Pourtant, c'est à lui qu'un réalisateur américain va confier cette mission incroyable d'ouvrir son film. Un film qui sort en 1972, réalisé par un jeune type de 33 ans, un cinéaste qui met cet homme qui n'a jamais fait de cinéma face à un géant du cinéma américain. Et vous savez quoi?
Sergio Leone.
Non, cet inconnu connu a bluffé tout le monde, bluffé le réalisateur, bluffé le comédien, bluffé au point qu'une partie de l'équipe a cru, et c'est authentique, qu'il ne s'agissait pas d'un professionnel du jeu, mais qu'il s'agissait d'un professionnel et que la personne s'occupant du casting avait été chercher quelqu'un appartenant au milieu dans lequel nous plonge le film.
Excusez-moi, question.
Au milieu dans lequel nous plonge le film. Donc on est sur de la mafia.
Dernier indice.
N'êtes-vous pas fatigué de votre métier?
Oui, je crois. De temps en temps, tout le monde se fatigue de métier. Et je suis dans une transition.
Vous avez reconnu l'acteur interviewé en français, et j'ai appris qu'il parlait français en 66, c'est Marlon Brando, qui pense peut-être, à ce moment-là, arrêter le cinéma, il est dans un creux de la vague, mais ça va pas durer, le film qui va le remettre sur les rails, un film qu'il tourne 4 ou 5 ans plus tard, et qui va lui valoir un Oscar, qu'il refusera d'ailleurs, il enverra Shashin Little Feather, une actrice et militante amérindienne, expliquer au parterre de stars pourquoi Brando refusait.
Ok, donc on est dans le parrain.
On est dans le parrain
1.
Ouais.
Mais le parrain, ça commence pas avec un travelling arrière sur quelqu'un
qui lui est arrivé.
I believe in America.
Fucking
America has made my fortune. And I raised my daughter in American.
C'est le vieux, c'est le.
Mais oui, c'est le type qui vient dans le bureau de Don Corleone, lui demander de tuer le gars, évidemment.
Et mais Don Corleone a son chat comme ça.
Mais voilà. Et il parle pendant 2 minutes 18 secondes avant que Marlon Brando ne vienne en caressant la joue. Et c'est lui qui est sur la photo, Jérôme.
C'est génial.
Regardez la photo, fameuse photo, cette photo historique.
Donc c'est l'homme qui vient voir Don Corleone.
Et qui murmure.
Alors que le mariage a lieu.
Et qui murmure à l'oreille de. Non pas des chevaux, mais
de Marlon Brando.
Et pourquoi James Brown?
Parce que c'était le parrain de la soul.
C'était
le premier indice. Hein,
oui, donc c'est le premier indice.
Voilà. Et donc, ce gars s'appelle Salvatore. Il a tout refusé. Il a eu plein de propositions après. Il est retourné en Italie. Il est mort en 1999.
Il faut toujours retourner en Italie.
Il faut toujours refuser.
Il faut toujours retourner en Italie. Mais vous imaginez, cette photo, il est dans je sais pas combien de restaurants italiens. En noir et blanc, en couleur. Et ben voilà. C'était donc notre inconnu connu. Je vous rappelle son nom quand même parce que. Il est quand même, c'est Salvatore Corsito.
Oh, merci. Et là, notre cœur saigne avec cette musique.
Oh oui.
Un des plus grands films, une des plus belles affiches avec la marionnette qui fait le parrain. Ben, une des plus grandes musiques de film.
Nino Rota.
Et maintenant, je vais vous faire une proposition que vous n'allez pas pouvoir refuser. Et si on invitait Manu Larsenet?
Oh!
La première.
11h30, 13h. Entrez sans frapper.
Notre invité aujourd'hui, et c'est peu dire que je suis heureux de le recevoir, c'est Manu Larsenet. Bonjour Manu.
Bonjour monsieur.
Bienvenue avec nous, vous êtes en direct de Paris, j'adore qu'on m'appelle monsieur. Manu Larsenet, c'est évidemment Le Combat Ordinaire, chef-d'œuvre, Les Cosmonautes du Futur, Retour à la Terre, Blast, Thérapie de Groupe, Le Rapport de Brodeck, hein, vous aviez adapté le roman de Philippe Claudel. Et ici, on vous reçoit, Manu Larsenet, déjà un, parce qu'on vous aime, c'est important de dire ça dans la
Merci,
vie.
Merci madame.
Et deux, c'est parce que vous vous attaquez à un chef-d'œuvre de la littérature moderne, La Route de Cormac McCarthy. Alors pour ceux qui étaient un peu distraits ces dernières années, il n'y a aucun problème avec ça. La Route, c'est un roman qui est sorti en 2006 aux États-Unis, publié en France en 2008. Il était sorti aux éditions de L'Olivier. Et c'est un livre qui est devenu automatiquement culte, tout de suite, dans ses premières heures. La Route, en fait, c'est un roman post-apocalyptique. L'apocalypse a eu lieu. Des incendies géants ravagent le monde, en tout cas les États-Unis. On vit dans la cendre. Il y a un nuage de cendre absolument dément. Et bah, l'humanité a disparu. En tout cas, la faune, c'est pratiquement sûr. L'humanité a disparu. Il reste quand même quelques êtres vivants. La plupart sont devenus menaçants, persécutants, comme diraient les psys. Aujourd'hui, ils pratiquent même le cannibalisme. Mais il reste des gentils. Et c'est justement un couple de gentils qu'on va suivre, hein, que Cormac McCarthy nous propose de suivre dans La Route. C'est l'homme et le petit. Et en l'occurrence, l'homme et le petit, eh bien, c'est papa et son fils qui vont aller vers le sud, vers la mer, en espérant y découvrir quelque chose, même s'ils savent que bah, c'est un paradis perdu et que probablement, au bout de la route, il n'y aura rien de différent. C'est un peu la même chose qu'avec la vie, Manu Larsenet. Est-ce que vous vous souvenez la première fois, parce que là, vous avez adapté ça en bande dessinée et c'est magnifique. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture de La Route de Cormac McCarthy? Est-ce que ça vous a dit, ce livre?
C'est un peu biaisé parce que j'ai découvert ce livre en cherchant un livre à adapter. J'étais parti sur un autre roman et les éditeurs et l'auteur n'ont pas jugé bon de répondre à mes avances. Et je discutais comme ça avec le studio de graphique de chez Dargo, le boss du studio graphique avec qui j'aime beaucoup travailler. Et il me disait, si tu veux faire un road movie comme ça avec des décors cassés dans tous les sens, essaye La Route. Donc je le lis. Et honnêtement, la première chose qui me vient à l'esprit, je me dis, mais il aime pas son fils, ce type. À aucun moment, il le prend dans ses bras. À aucun moment, il y a de la tendresse. C'est très, très léger. Et puis, je le relis une deuxième fois en me disant, est-ce que je peux rendre ça? Est-ce que je peux rendre ça? Est-ce que cette scène, je peux? Est-ce que... Et finalement, je me dis, ça va être passionnant. Plus peut-être pour les décors, pour l'ambiance, pour les la cendre, la neige et tout ça. Parce que j'étais un petit peu ennuyé avec ce père. Jusqu'à une certaine scène, vous verrez dans le livre, où là, j'ai compris qu'en fait, il préparait son fils à lui survivre. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de le prendre dans ses bras ou de créer un amour inconditionnel où le petit sera complètement perdu quand son père sera plus là. J'ai l'impression, moi, mais ça, c'est ma lecture à moi, que le père le prépare à quand il va être seul.
Ouais, j'ai la même lecture. C'est qu'en fait, effectivement, ce père est distant. On ne le voit pas aimer terriblement son fils, mais on voit le préparer. Parce que bah, le monde est dur, et particulièrement dans La Route, puisque le monde est apocalyptique, et que inévitablement, le père devra partir avant son fils, et c'est d'ailleurs la nature des choses. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Tous les pères et les mères seront d'accord avec moi, j'imagine. Donc, ce qui vous a frappé dans la première lecture du roman, c'est assez étonnant, c'est finalement, on suit deux personnages, un père et son fils. Il devrait y avoir amour inconditionnel, et cet amour est particulier. C'est ça qui vous a frappé.
J'aime ça, parce que j'arrivais pas à me projeter dans ce père, jusqu'à ce que je comprenne pourquoi il faisait ça. Et j'aime bien les histoires qui sont, comment dire, pas hollywoodiennes. C'est-à-dire que ça aurait été facile de faire des scènes de tendresse entre ces deux-là. Il est plus dur, justement, de ne pas en faire. Et ça en dit plus, peut-être, sur leur relation et sur le monde dans lequel ils vivent, que si ils avaient fait ce que moi je pensais, c'est-à-dire dormir la nuit en s'étreignant ou le rassurer, tout ça. En fait, il passe son temps à lui expliquer que ça va être dur et qu'il n'y a pas d'espoir. Mmh. Et j'aime bien quand il n'y a pas de happy end, quand on parle du désespoir, souvent, on a cette réaction hollywoodienne de vouloir que la fin soit un peu plus upbeat, qu'on soit un peu dans la tendresse. Alors que non, c'est du désespoir d'un bout à l'autre, et il n'y a pas de raison de donner dans le sentimental.
Alors vous dites, hein, moi c'était les décors cassés, évidemment, ce monde apocalyptique, la cendre qui a envahi le monde. Vous allez, il y a des dessins absolument formidables, avec de l'architecture démolie, et ces deux personnages en ombre dans le décor et dans la cendre, c'est absolument sublime. Parlons d'abord de ce dessin. Manu Larsenet, c'est ce qui vous fascine, hein, de toute façon, dans la vie. Vous passez votre vie à dessiner. Comment vous avez trouvé la charte graphique, la manière dont vous alliez dessiner la route? Parce qu'on est évidemment à mille lieues de votre travail dans Le Combat Ordinaire au Retour à la Terre. On est à mille lieues du travail que vous avez fait pour Blast. On serait un petit peu plus près, mais c'est pas encore ça, du travail que vous aviez fait pour le rapport de Brodeck. Soit, c'est vraiment unique. C'est un travail unique pour vous. Comment vous faites pour trouver le style que vous allez adapter?
Alors, je passe déjà plusieurs mois à faire des recherches photographiques pour savoir un peu dans quoi je m'embarque. J'ai donc regardé pendant des semaines des photos de bombardements, de villes bombardées après la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de ces barres d'immeubles ukrainiennes complètement défoncées, de tout ce qui est tordu. C'est un peu morbide parce que j'ai regardé des photos d'accidents aussi, comment sont les voitures après les accidents, comment sont les rails de sécurité. Il a fallu faire une sorte de bibliothèque graphique dans ma tête avant de commencer. Et puis il y a aussi toute une partie qui est là, était beaucoup moins marrante, c'était celle des charniers, des corps squelettiques. Et là, il n'y a pas 10 000 trucs. J'ai fini par regarder des photos de camps de concentration et j'ai passé des semaines à étudier tout ça, à me mettre dans un état d'esprit un peu dépressif, un peu déprimé. Et là, j'ai commencé à dessiner. Et j'ai compris un truc très vite, c'est que il parle beaucoup de la cendre et du brouillard. McCarthy. Et j'ai découvert que j'arrivais pas à dessiner ça directement. Donc je faisais en fait mes dessins en noir et blanc très très complet, tout ça, et je repassais après un outil, une sorte de gomme qui permettait d'enlever des bouts. Parce que ces personnages sont très rarement entiers. Ils sont très rarement visibles entièrement. Il y a toujours un coup de vent, de la poussière qui s'échappe. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai abordé le truc. En me disant, il faudra penser à chaque fin d'image de la salir. D'en enlever des bouts, de mettre des taches à d'autres. Parce que c'est omniprésent.
Ouais. Et vous allez travailler sur quelques couleurs. Le noir et blanc, évidemment. Il y aura une espèce de sépia, quelque chose qui tend un peu plus vers le rouge et qui va rythmer aussi, hein, le roman graphique. Parce que c'est de ça dont il s'agit, ça paraît chez Dargaud, hein, c'est La route de Manu Larsenet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Alors, en fait, ça pose une vraie question, ce La route, Cormac McCarthy. Hein, je disais, c'est comme la vie, hein, on ne sait pas pourquoi on est là, là en l'occurrence c'est vrai, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'on soit dans un monde post-apocalyptique, et on va vers le sud parce que vraiment, il faut faire quelque chose et échapper aux méchants, mais en gros, on sait très bien que ce qu'on va y trouver, ce ne sera pas mieux, voire pire, et qu'il y aura même peut-être la mort. Enfin, ça ressemble à la vie, cette histoire. Et en fait, on fait la même chose dans la vie, Manu Larsenet. On avance. Parce que il n'y a pas d'autre alternative que d'avancer. La société, elle n'est absolument pas d'accord sur le fait qu'on fasse du surplace. Est-ce que c'est une question à laquelle vous réfléchissez? À quoi ça sert d'avancer? Parce que c'est ce qu'ils font, en fait, tous les deux.
Vous parlez du livre ou de la vie, là?
Les deux. C'est pour ça que je trouve que c'est une grande œuvre, parce que c'est les deux à la fois.
Oui, mais il le dit à un moment, de toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Non, il y a à avancer. Ah, c'est compliqué comme question que vous me cueillez à froid. Là.
Ben pourquoi après une BD, vous faites une autre BD, Manu Larsenet? C'est ça la question.
Je fais de la bande dessinée tous les jours depuis que j'ai une dizaine d'années. En professionnel, depuis cette année, ça fera 30 ans. Et je n'ai vécu que comme ça. J'ai vécu par l'image quasiment toute ma vie. Mon langage à moi, c'est des traits. J'aime bien les mots, hein, mais c'est très dur pour moi d'écrire. C'est pas du tout évident. Alors que depuis quelque temps, le dessin, c'est devenu quelque chose dans lequel je me sens un tout petit peu plus à l'aise, mais c'est surtout une transe. Le dessin, quand on le pratique tout le temps, il faut arriver à se débrancher un peu l'intellect, parfois, pas tout le temps, hein, mais parfois, c'est juste de la transe. Les traits arrivent et vous sentez qu'il faut les faire, mais c'est pas vraiment intellectualisé. C'est comme... c'est dur à dire, un peu comme quand on est sous, parfois pas vraiment à fond, hein, mais soudain on se dit tiens j'ai fait ça au fait, et c'est ça le dessin. Et j'adore ce sentiment de ne plus être dans le temps, de ne plus dépendre du désir des autres, de ne plus même avoir de rapport avec les autres, de n'avoir de rapport qu'avec le trait. Parce que c'est ça, moi, c'est mon vocabulaire, c'est comme ça que je parle. Je sais pas m'exprimer, j'ai du mal à m'exprimer, même si je fais de la thérapie depuis tellement de temps que je commence à parler. Mais pour moi, il est plus facile de montrer quelque chose que d'en parler.
Et en parlant de thérapie, je ne sais plus c'est dans quel tome, mais ça vous allez me le dire, hein, y a un de vos albums qui commence par le mec chez le psy et il explique son problème et le psy lui dit « Vous faites quoi les 20 prochaines années ?»
Oui, j'avais mis de l'humour. Oui.
C'est absolument sublime. Manu Larsen est notre invité. La route d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Évidemment, c'est essentiel dans les sorties de cette année. On continue de parler avec vous, Manu Larsen, parce qu'on aime bien ça dans quelques instants.
11h30, 13h.
Entrée sans frapper sur la première.
Manu Larsen est toujours notre invité dans Entrée sans frapper. Manu, vous avez adapté en roman graphique La route de Cormac McCarthy. L'homme et le petit, un homme et son père, partent sur les routes d'un monde apocalyptique. La faune a disparu, les êtres humains presque aussi. Il reste quand même pas mal de méchants cannibales, tueurs, et il y a quand même quelques gentils. Et eux, en fait, tous les deux, l'homme et le petit, ils vont tenter de rejoindre le sud et surtout peut-être de garder leur humanité, de rester du côté des gentils. Vous êtes papa, vous, Manu ?
Oui, je suis deux fois papa.
Voilà.
C'est pour ça que j'étais un peu ennuyé au début, parce que je me projetais avec mon fils et je me disais, mais moi, je pourrais pas m'empêcher de lui parler en permanence, de le prendre dans mes bras, de lui prendre la main et tout ça. Et c'est jusqu'à une scène, je sais pas si vous vous rappelez, c'est une scène où très rapidement, il apprend à son fils à se suicider.
Bien sûr, il lui dit, tu mets bien ça dans ta bouche, il faudra aller vite.
Au fond, tu réfléchis pas et t'appuies. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est une scène d'une grande profondeur, parce que ce serait une scène dans un autre temps, dans un autre espace. Je trouverais ça un peu déplacé, mais dans ce monde-là, il est peut-être sain d'apprendre à son enfant à en finir une fois pour toutes avant que ce soit la pure horreur.
La pure horreur, en l'occurrence, on explique peut-être pour nos auditrices et auditeurs, c'est de se faire capturer et d'être mis dans une pièce qui est en fait un garde-manger pour les mecs qui viendront vous chercher bientôt, hein.
Voilà. Ou violé, ou... C'est ça qui est assez marrant chez McCarthy. Il y a deux, trois scènes où on montre les choses et tout le reste, on reste sur cet acquis-là en se disant c'est dangereux, mais il précise plus au bout d'un moment. Donc on vit dans une sorte de route où il n'y a pas grand monde, mais on sait que pas loin, il y a potentiellement la mort, la souffrance, l'horreur la plus complète.
Il y a une vraie question dans La route et dans votre travail, c'est comment rester quelqu'un de bien face à un monde inimaginable. Alors évidemment, le monde post-apocalyptique de La route, il est pire que le nôtre. Mais le nôtre est déjà pas mal, finalement, par rapport à celui, par exemple, des bisounours.
Oui.
C'est vrai.
C'est vrai, vous n'avez pas tort.
Et il y a quand même les gentils et les méchants, et toute l'idée de l'enfant, il a une obsession quand même, c'est d'aider ceux qu'ils vont croiser, même si c'est dangereux, et de rester du côté des gentils. C'est aussi un des buts de nos vies, Manu Larsen, non ? Essayer d'être quelqu'un de bien, même si on sait qu'on appartient à ce sapiens sapiens qui visiblement est pas que quelqu'un de bien.
Moi, je l'ai lu de telle manière, j'ai trouvé ça enfantin. L'idée des bons et des méchants. Il demande à son père, est-ce qu'on est des gentils? Et le père lui dit, oui, on est des gentils, mais on sent que c'est pas non plus une certitude absolue. Et non. À la fin du livre, quelqu'un leur vole des affaires et le père retrouve cette personne, lui prend ses vêtements, lui prend tout ce qu'il a et commence à s'en aller. Le petit lui dit à ce moment-là, mais alors, on est encore des gentils ou pas? On sent que le petit, pige pas ce qui est en train de se passer. Et le père va finir par se dire, bon, d'accord. Et il lui laisse les vêtements un peu plus loin. Et, c'est cette sorte d'échange entre un père qui pense que, gentil ou méchant, je pense que ça n'a pas une énorme importance, c'est de rester en vie et de pas céder à soi-même à manger l'autre ou à être mangé. Le seul qui tient encore à tout ça, c'est l'enfant.
Ouais, c'est l'enfant.
Le père, je pense qu'il a abandonné cette idée. Il veut juste qu'il reste en vie, l'enfant. Ou que si ça devient la catastrophe, qu'il meure très vite.
Voilà. Il a un problème, le père, hein, c'est que il a un pistolet et il n'y a plus que une balle. Sinon, je pense qu'il trouverait d'autres solutions. D'ailleurs, c'est un très beau dessin, celui du barillet de l'arme. Il y a quand même, vous disiez au début, j'ai été troublé vachement parce que ce père, il prend pas son môme dans les, ouais, dans les bras. Il essaye quand même pas toujours de le rassurer de la même façon. En fait, il ne lui ment pas. Nous, des fois, on ment à nos gosses d'une certaine manière. Mais il y a quand même un truc sur le rôle de père dans La Route de Cormac McCarthy. Et d'ailleurs, vous le reproduisez ici tel quel. Le père dit à l'enfant, en fait, mon rôle de père, c'est de prendre soin de toi. C'est une évidence. Mm. C'est ce qui est beau aussi dans ce roman. Il le fait à la manière du monde dans lequel il vit.
Voilà, c'est ça. Lui, il a compris ce qui se passait. Il sait les dangers, il sait tout, donc il essaie de lui montrer ça. Mais ça a fait écho, parce que j'avais un père avec qui j'avais du mal à parler. Mmh. Et du coup, j'ai vu plutôt mon père dans celui-là. Mon père essayait de me préparer en me disant « La vie d'artiste, tu pourras pas. Tu vas jamais y arriver. C'est pas possible, c'est trop dur. T'es pas fait pour ça. Et c'est pas une vie qu'on gagne. Ça, c'est un hobby, le dessin et tout ça. » Et ça m'est resté très longtemps. Et du coup, je pense que j'ai plus revu mon père à moi dans ce père-là. C'est un père qui prépare à l'avenir. Un père qui s'embarrasse pas de l'écume des sentiments, qui simplement veut prévenir son fils qu'il va en chier, que ça va être super dur et que probablement même il n'y arrivera pas. Et cette connexion avec mon père qui a disparu il y a quelques temps déjà, ça m'a marqué. Ça m'a permis peut-être même de dépasser ça.
Ça, c'est terrible parce que s'entendre dire que ça va être dur et que même probablement à la fin, on ne va pas y arriver, en termes de génération d'anxiété, on est sur un haut niveau.
Ouais, mais vous savez, mon père, il revenait de la guerre d'Algérie, il avait vu... Je pense que c'était quelqu'un qui avait cette idée qu'il y a dans Cormac McCarthy. Il voulait me dire que ça allait être vraiment que la vie, c'est dur, quoi. Mm-hmm. Et que, bon, on peut rêver, on peut avoir des trucs, mais qu'il faut se préparer à que ce soit infect. Mm-hmm. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait aimer cette relation qu'ils ont entre eux dans le roman. Mm-hmm.
Et la vie, c'est vraiment dur, Manu Larsonnet ?
Ouais, enfin, je veux pas parler pour les autres, mais la vie, c'est vraiment... compliqué, difficile, et il y a des moments d'une extraordinaire beauté. Quand on arrive, quand on a le temps de les regarder, quand on a un petit peu de temps libre devant soi pour se repaître de ça, c'est des moments magnifiques qui valent le coup finalement. Mmh. Mais il faut arrêter de dire comme aujourd'hui, comme j'entends souvent, même dans les BD et tout ça, ah, c'est joyeux, c'est... Non, c'est principalement pour moi, c'est l'enfer.
On s'est déjà rencontré à Manu Larsonnet, notamment dans un taxi, dans Hep Taxi, il y a un bout de temps maintenant, je pense, il y a une dizaine d'années, et vous m'aviez dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, figurez-vous. Ah, on avait une discussion, et je vous avais dit, c'est quoi votre but dans la vie, Manu ? Et vous m'aviez répondu cette phrase terrible, et à laquelle je pense encore de temps en temps, vous m'aviez dit, mon but dans la vie, c'est de mourir de mort naturelle.
Ah oui.
Ah, c'était chaud, hein.
Ah, vous voulez qu'on parle de ça?
Vous voyez pourquoi je l'ai pas oublié, cette phrase?
Ouais. Je me rappelle pas vous avoir dit ça, mais ça me ressemble bien, en tout cas, oui.
Elle est marquante. Ça va mieux?
Non, enfin, oui et non. C'est, alors bon, là, on va rentrer dans l'intime. Peut-être vous le mettrez pas dans votre émission, j'en sais rien, mais depuis tout petit, donc je suis bipolaire, donc j'ai des épisodes maniaques, des épisodes dépressifs très très profonds, et j'ai été traité, j'ai commencé à comprendre que c'était une maladie aux alentours de 35-40 ans. Donc pendant très très longtemps, même en petit garçon, vers 8-9 ans, j'avais l'idée que si ça devenait vraiment trop compliqué, et que je trouvais pas d'aide, et que j'y arrivais pas, il restait toujours le suicide. Et c'était pas noir, c'était pas quelque chose de sordide, c'était de se dire, si vraiment c'est aussi infect que ce qu'on propose ou ce que je pense comprendre, bah au moins il y aura toujours ça. Il y a un moyen d'arrêter tout ça. Et à tous les âges de ma vie, j'ai eu cette idée que si c'est la catastrophe, c'est pas grave, on peut arrêter quand on veut. Mmh. Alors aujourd'hui, évidemment, avec des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, faut être honnête, à la cinquantaine, moi je commence à avoir d'un traitement qui marche, à comprendre mieux les choses, le monde, et je commence à prendre un peu plus de plaisir. Mais tout en sachant que c'est sans doute qu'une période, que ça va revenir parce que c'est mon truc à moi, voilà, ça va, ça vient, il y a des cycles et ces cycles, il faut malheureusement les accepter, et des fois c'est tellement dur que l'idée, le fantasme du suicide vous protège de l'action vers le suicide, vous voyez ? Avoir ce fantasme-là, c'est une porte de sortie. Et je l'ai jamais prise, j'ai jamais même essayé de la prendre. Et je pense que le fait d'avoir conceptualisé ça très petit, enfant, ça m'a aidé à tous les moments de la vie où ça a été très compliqué. Je me disais, attention, là, on s'approche de l'insupportable. Et je partais, je faisais autre chose, je déménageais, je changeais de... pour repousser ça. Ce fantasme du suicide m'a tenu éloigné de la mort pendant très longtemps. Et c'est une bonne chose.
Pas politiquement correct, mais merci beaucoup à vous, Manu Larsenet, de tenir ce discours, parce que c'est important de pouvoir parler de ces choses-là. La route, ben Manu Larsenet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. On va parler encore, Manu Larsenet, ça va être un tout petit peu plus léger, encore que, je suis pas sûr.
De 11h30 à 13h,
Entrez sans frapper sur la première.
Manu Larsenet, notre invité aujourd'hui d'Entrer sans frapper. Vous avez sublimement, Manu, adapté La Route, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, grand roman sorti en 2008 en français, 2006 en anglais. L'histoire de ce père et ce fils, l'homme et le petit, qui marchent vers le sud dans un monde apocalyptique. Paradis perdu, hein. On sait très bien dès le début qu'ils risquent pas de trouver le Club Med à la fin de leur promenade. Page 104. Il y a une case absolument formidable, Manu Larsenet. Et je pense que cette case, vous allez peut-être la deviner avant moi, c'est une case qui doit résumer toute votre vie. En fait, ils sont dans une baraque et il y a des livres. Et vous avez complètement triché par rapport à l'œuvre de Cormac McCarthy, d'ailleurs. Il faut pouvoir le dire. Et en fait, ils découvrent des bouquins et vous allez dessiner trois couvertures de bouquins dans la même case. On les voit pas en entier. Il y a 100 P. Il y a « Des souris et des hommes » de John Steinbeck, et ça, vous pouvez pas imaginer comme ça me touche. Et il y a « Les dessins » de Vincent Van Gogh. C'était important pour vous que cet enfant, à un moment, voit ces trois choses-là, que sont trois œuvres qui, visiblement, vous ont marqué et nous ont marqué. Oui. On est nombreux, j'imagine, à ce moment-ci.
Dans le livre, il me semble qu'il voit un livre avec quelques oiseaux. C'est dit en quelques mots. Hein. Et il s'étonne de ce que c'est, en fait, parce qu'il y a de fortes chances qu'il n'en ait jamais vu. Cette idée, comme je vous disais tout à l'heure, j'adore les animaux. Et là, il y en a, ils sont tous crevés, là, faut être honnête. Il n'y a plus que des poissons morts. Et je me disais, tiens, c'est le moment où jamais. Là, ils sont dans une sorte de bunker anti-atomique. Et il y a effectivement quelques livres. Le livre de Steinbeck, c'est... plus un clin d'œil, j'adore ça, mais c'était surtout les oiseaux. Donc j'ai commencé à les dessiner comme s'ils trouvaient un livre sur les oiseaux, puis ça fonctionnait pas. C'était... Et quelques semaines avant, était mort Sempé, Jean-Jacques Sempé, qui était, on va dire, mon idole, une de mes idoles d'enfant, et puis d'adolescent, puis d'adulte. Et il a fait un livre avec une couverture avec des tonnes de mouettes. Plein de mouettes partout. Et donc je commence à redessiner ça, et mon trait à côté du sien, c'était une honte. Donc je me dis, pourquoi pas aller directement à l'essentiel, je découpe ça, je le colle, ça fera juste un petit clin d'œil, mais en même temps je dénature pas le dessin de Sempé. Et je voulais que cet enfant voit la beauté non seulement des oiseaux, mais la beauté aussi d'un dessin. Parce que pour moi c'est essentiel.
Voilà. Et le dessin de Vincent Van Gogh aussi, parce que c'est les drawings, hein, c'est les dessins de Vincent Van Gogh.
C'est des livres que j'avais sous le nez, moi, pendant tout ce temps-là. Donc du coup, j'ai pas été chercher bien loin. Hein. J'avais même près de moi, pendant tout ce temps-là, des fossiles. J'avais trouvé des fossiles sous l'atelier que j'occupe. Et en me renseignant un peu sur Internet, j'avais vu que un des fossiles que j'avais avait 150 millions d'années. Et je sais pas pourquoi, il m'est resté en main. Je le prenais à chaque fois, tous les matins, je le prenais dans ma main gauche et je dessinais de la main droite. Et je me suis dit, peut-être que... c'est la survivance. Cette petite bête qui était au fond des mers il y a 150 millions d'années, je la tiens avec moi aujourd'hui et elle m'accompagne pendant toute la route. Et il y avait quelque chose comme ça de presque mystique. Voilà.
C'est joli. Alors, il y en a un que vous n'avez pas dessiné, mais on est en Belgique, là, Manu Larsenet. Donc, il faut en parler. Je sais combien vous êtes fan de Franquin. Parlez-nous un peu de Franquin, qui n'était pas la moitié d'un bon dessinateur aussi, hein, d'ailleurs.
C'était une autre époque de la bande dessinée. Ouais. Et c'était, pour moi, un des plus doués, parce qu'il avait cette manière de faire des choses absolument inattendues. Par exemple, si vous ouvrez un Spirou qu'il a fait, vous verrez qu'en page de garde, il y a le fameux château de Moulins. Mais vu de nuit, et il est éclairé par la lune. Alors ça paraît pas grand chose quand on dit comme ça, mais pour un dessinateur, éclairer un bâtiment aussi complexe seulement avec la lune, c'est un truc de virtuose. Il y a que 3 ou 4 mecs qui doivent être capables de faire ça, et Franquin savait faire ça. Franquin, il avait un trait. Chaque fois qu'il faisait un trait, c'était un mouvement. Moi, souvent, j'utilise des traits lourds qui restent au sol. Lui, tout ce qu'il faisait, c'était comme une envolée lyrique. J'ai vu ça quand j'avais 10, 12, 13 ans, et j'ai eu le cerveau brûlé en voyant ça, en me disant comment Est-ce qu'il peut faire ça? Et aujourd'hui encore, c'est à la fois un mystère et quelque chose dont j'aimerais m'approcher aujourd'hui. Avoir autant d'intensité dans chaque trait que lui en mettait.
Mmh. Ah, ben c'est joli. Dernière question, vous dites le dessin. Je voulais que cet enfant voie le dessin. Parce oui. que c'est primordial. Ça a été évidemment primordial dans votre vie. Mais vous n'êtes pas sans savoir, Manu Larsonnet, que tous les enfants dessinent, mais que oui. tous les adultes ne dessinent pas. On arrête à un moment de dessiner. Moi, c'était par désespoir. Parce que quand mes enfants me disaient « Papa, dessine-moi une voiture », je leur dessinais une voiture. Et ils me disaient « Oh non, pas un camion, une voiture ». Donc vous voyez, mais j'avais des limites. Et donc j'ai abandonné. Mais pourquoi, à votre avis, la plupart d'entre nous arrêtent de dessiner alors qu'on y a pris jusque-là un tel plaisir et que, jusque preuve du contraire, les êtres humains, quand ils prennent du plaisir, ils recommencent? Pourquoi nous, on arrête?
Ah oui, ça mais... Alors là, on entre dans des trucs incroyables. Vous avez une heure et demie, là?
Non.
Il y a quelque chose... Enfin, je pense qu'on est à un âge 5, 6, 7 ans. Quand on commence à écrire... Il y a un chemin qui se divise. Il y a ceux qui écriront, ceux qui continueront à écrire et qui laisseront tomber le dessin complètement, et certains autres, pas beaucoup, mais qui vont continuer, même en amateur, sur le coin d'une table, tout ça, ils vont continuer à dessiner des choses. Je pense que c'est une disposition qui vient de très loin, un truc archaïque. Récemment, j'ai vu des peintures de grottes ornées en France, et je m'aperçois que la manière de dessiner le dos du bison, c'est exactement la même que moi j'utilise. La manière de faire une patte, c'est exactement de la même manière. Donc je me dis, en fait, en 10, 20, 30 000 ans, on dessine les choses de la même manière. Donc je pense qu'en fait, le dessin, ça vient de très loin, c'est archaïque, ça vient des débuts de l'humanité. Mais sans doute l'écriture aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais certains restent bloqués sur ce vocabulaire-là. Et moi, j'avais beaucoup de problèmes à parler avec les gens, très timides, un enfant très introverti, j'arrivais pas avec les mots. Par contre, quand je prenais un marqueur et que je dessinais sur le cartable des copains, j'étais une star. Et donc j'ai trouvé que ma place dans la société à ce moment-là, elle passait par là. Elle passait par les signes graphiques. Et j'ai adoré cette période de mon enfance. Pourtant, j'ai pas tellement aimé mon enfance. Mais ça, quand j'ai découvert que les autres étaient sensibles au petit bonhomme que je dessinais sur leur cahier, sur leur cartable ou sur je sais pas quoi, j'avais une place. Ma place, elle était là. J'avais enfin une place.
Ah, bon, on va conclure sur ça parce que c'est formidable. La route, Manu Larsonnet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, c'est édité chez Dargaud et c'est essentiel hein, dans vos lectures de cette année. Vous allez voir, il y a une économie de dialogue, mais alors une profusion de dessins plus beaux les uns que les autres. La route, Manu Larsonnet, d'après McCarthy, c'est chez Dargaud. Merci Manu d'avoir été notre invité.
Merci madame, c'était génial.
Merci, jeune fille.
Écoute, ne prends pas assez le temps. Entendu, ça ne s'arrête plus. Tout cela ressemblait à autre chose.
Oui, mais votre ambition n'était pas cependant d'ordre politique.
Entrez sans frapper sur la première avec la Sonuma.
Avec la Sonuma et surtout Laurence Bibot, on entend des voix chaque semaine dans Entrez sans frapper. Et aujourd'hui, la voix des François.
Durant l'année 82, dans l'émission de variété Chansons à la carte, quelques François se succèdent au micro. Et commençons par le plus étrange, qui incarnait un genre, il me semble, en voie de disparition. Il s'agit du sosie de Claude, Eddie François. Eddie François, en 82, se lance dans la chanson originelle. Et il nous offre ici une sorte de mise en abîme entre la confession et la petite annonce avec une chanson au titre limpide, « Je voudrais être un chanteur ». Bon, c'est totalement premier degré, on peut pas faire plus honnête. Et peut-être plus triste.
On dit que je suis son sosie, que j'ai la même voix que lui et le même âge. Et même si c'est flatteur pour moi, je ne suis pas le chanteur que l'on croit, c'est bien dommage.
C'est bien. Oui, Eddie François, sosie.
Eddie François, qui était officiel. Sosie officiel.
Officiel depuis.
Qui faisait ses chansons.
Absolument, depuis 1972. Et qui, il y a encore quelques années, faisait des galas, bien que gala est un bien grand mot, en tout cas des prestations. Et c'est assez étrange de le voir aujourd'hui, puisque il a son âge, notre Eddie, il est un peu voûté.
Que Claude n'a jamais eu.
Absolument. Et qu'on imagine, du coup, l'allure que Claude aurait, c'est une sorte de portrait de Dorian Gray. Bien.
Mais maintenant il est parti dans les nuages. Je voudrais être chanteur et chanter mes propres chansons et chanter pour un public, merci.
Voilà, il n'y a pas plus clair.
Eddie François. C'était dans Chanson à la carte.
Oui, c'était dans Chanson,
Chanson
à la carte.
C'était quoi, l'émission de variété de la RTBF?
La plus grosse émission de variété de la RTBF. Tout le monde venait à Chanson à la carte et il y avait un petit public qui était assis avec un casting jolie fille. À l'avant.
D'accord.
Un casting blonde.
Et évidemment. Bien ça, c'était notre premier François du jour, Eddie François. Mais dans les archives d'Assenuma, il y a quoi d'autre?
Eh bien, à peu près à la même année, nous avons un autre François, tout aussi blond que le premier, François Valéry, de son vrai nom, Jean-Louis Mougeot. C'est vrai que ça fait moins top 50. Qui, en 82, toujours, chante Dream in Blue avec la toute jeune Sophie Marceau. À la question, est-ce qu'il y a une chanson que vous avez aimée qui vous a fait honte? J'avais toujours répondu crânement, aucune, persuadée d'avoir toujours eu un peu bon goût. Eh bien, voilà la chanson qui me fait honte, parce que je l'ai aimée, cette chanson.
Have you learned your text?
J'ai pas eu le temps, monsieur.
Moi aussi, j'aime bien.
Prétexte.
On ne fait pas ce qu'on veut.
Petite romanesque.
Attendez.
Ça vous amuse, monsieur.
Un petit peu. Ah ouais.
Je ne l'ai pas mis ici, le refrain.
François Valéry et Sophie Marceau.
J'ai pas eu le temps, monsieur. En dehors du fait que Sophie joue mieux qu'elle ne chante. Ce texte est horrible, en fait. C'est un horrible texte, puisqu'on va découvrir dans le refrain que cette jeune fille est amoureuse de son prof. Ouais. François Valéry s'est écrit, enfin, on lui a écrit, avec l'air de Pierre Delanoë, on lui a écrit son petit fantasme de vieux dégueulasse.
Entre bleu et blue.
Dream in blue. Je dream en bleu, je rêve.
Je dream en bleu, je rêve en bleu.
Tout est bleu, all is blue. Blue.
Oh, dream.
Bah oui, c'est le fantasme d'un homme de 40 ans, bien sûr.
Du prof d'anglais aussi.
C'est un fantasme d'un horrible chanteur.
Prof d'anglais. De franglais.
Oui, oui,
enfin, c'est le fantasme d'un chanteur qui se prend pour un prof d'anglais.
Oui, oui. Mais Sophie Marceau est donc venue ici à l'RTB chanter Dream in Blue avec François Valéry.
Oui, absolument. Oh, ah oui, vous avez raté
plus, ça.
Ah non, il y a plus. Non, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, mon préféré, le plus digne. Le plus digne et le plus digne représentant de la chanson italo-liégeoise, le bien-aimé.
Ah, voilà.
Frédéric, François, bien entendu. Lui, il s'appelle vraiment François, enfin Francesco, puisqu'il est né en Sicile. Il commence au début des années 60, il connaît le succès au début des années 70 grâce à un morceau qui va passer sur Europe 1. Et puis, ça va jamais s'arrêter et tout est disproportionnel. J'ai compté une centaine de 45 tours. Ben, on va quand même de 66 à
100 singles, plus de 100 singles.
Oui, 80 CD. 9 DVD, spectacles et captations, 50 compilations. On entend ici, il faut que je me dépêche?
Un petit peu.
Eh bien, écoutez, on va entendre ici Frédéric-François Ottini pour l'émission Face au public et nous allons entendre Mon cœur te dit je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Frédéric-François. Et sans ironie aucune, cette chanson me plaît finalement beaucoup.
Ah oui.
Mon cœur te dit je t'aime.
Et lui, il chante pas en playback.
Lui, monsieur. Bon, alors, petit moment gênant. Pendant la captation, il y a une petite fille qui monte sur scène pour lui donner des fleurs et on entend sa maman crier dans le public. Un bisou! Un bisou! Un bisou! Voilà. Ça, je ne sais pas si on fait encore ça aujourd'hui.
On fait moins.
J'espère.
Je c'est parce qu'on lit la presse. Ah, formidable Frédéric François. Merci pour la voix des François, Laurence Bibot. Merci Eric Russon.
Merci à vous.
Merci à Evian, Marianne Bopin. Dans quelques instants, c'est le journal avec Marie-Laure de Kerckhove.
La première.
L'esprit clair. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.